Alors nous poursuivons notre étude de l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 4. Va nous parler de l'importance des serviteurs de Dieu. C'est vraiment comme la suite de ce qu'on avait vu au chapitre 3. Et rappelez-vous un peu à l'introduction de l'étude de 1 Corinthiens, nous avons dit que les quatre premiers chapitres de 1 Corinthiens visaient à corriger, à régler un problème de division qui existait au sein de l'église de Corinthe. C'est ce que nous avions dit au début. Et nous l'avons vu dans les trois premiers chapitres. Il a beaucoup adressé la question de division, les causes, la base des divisions. Il a beaucoup adressé cela. Alors, en concluant le chapitre 3 de 1 Corinthiens, chapitre 3, je vais lire juste deux points. Il disait ceci au verset 18 du chapitre 3, que nul ne s'abuse lui-même, que nul ne se trompe lui-même. Là, il s'adressait aux différents ouvriers qui étaient mis en cause. Que personne ne se trompe en encourageant ce genre de division ou en se croyant supérieur aux autres à cause de la connaissance que, notamment, les Grecs avaient, à cause de toute l'instruction qu'ils avaient, ils se croyaient supérieurs aux autres. Mais il encourage plutôt que, au lieu de s'abuser, plutôt d'acquérir la sagesse venant d'en haut, hein, et pas être sage selon le siècle présent. Parce que nous savons qu'avec la sagesse du monde, la sagesse humaine, on ne peut pas bâtir l'Église. La deuxième chose qu'il encourageait en terminant au verset 27, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Là, il s'adressait à l'Assemblée. Il dit de ne pas suivre de tels ouvriers, de ne pas dépendre de tels ouvriers et surtout pas leur donner la gloire. Donc, c'est comme ça qu'on terminait le troisième chapitre de 1 Corinthiens. Nous débutons donc ce soir le quatrième chapitre que je vais lire par bout de verset. Je vais lire du verset 1er au verset 5 pour commencer. Ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et nous venons de le chanter d'ailleurs. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun, à ce moment-là, recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Le chapitre 4, ici, termine le bloc des quatre premiers chapitres qui parlaient justement des divisions. Donc, il termine en montrant ce que doit être le rôle, l'importance des ouvriers, des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Comment Dieu les voit? Les serviteurs de Dieu, c'est de ça dont il va parler. Ils doivent être considérés simplement comme des serviteurs, par opposition à patron. On sait qu'il y a des tendances actuelles où les serviteurs de Dieu sont devenus comme des patrons d'empire, les églises sont devenues comme un empire sur lequel des gens règnent, ou des ministères sont devenus des empires. Lui dit que ce que Dieu veut que nous soyons, c'est des serviteurs, c'est-à-dire des gens qui savent qu'ils sont envoyés, des gens qui savent qu'ils ont reçu un don. Ils sont un don à l'Église. Les serviteurs de Dieu sont un don à l'Église pour le service qu'ils doivent rendre. Donc, ils doivent être humbles. Ils doivent être humbles. Ils ne sont pas des patrons. L'Église, les membres de l'Église, les membres de leur ministère ne leur appartiennent pas. Les chrétiens, nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons pas au pasteur, etc., etc. Vous comprenez? Donc, il parle beaucoup d'humilité. Les ouvriers doivent être considérés comme de simples serviteurs. C'est pour ça qu'il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs. On nous regarde, qu'on arrête d'élever les gens comme c'était le cas là-bas à Corinthe à ce moment-là. Donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs, pas comme des patrons. Mais aussi, pas seulement des serviteurs, mais des serviteurs qui viennent comme des dispensateurs. Dispensateurs comme des distributeurs, des gens qui sont chargés de communiquer quelque chose. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Des administrateurs des choses que Dieu leur a révélées. Il y a des choses qui étaient mystérieuses jusqu'à la venue de Christ. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est resté secret. Ça a été dit bien avant, mais les gens ne comprenaient pas jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu. C'est des mystères, des révélations cachées, des mystères qui étaient arrêtés avant la fondation du monde. Dieu savait que les Juifs et les païens et les gentils, comme on les appelait, allaient un jour devenir membres d'une seule et même famille. Nous en avons parlé pour ceux qui étaient ici pour les études. Quand on a étudié Romains, on peut lire ça juste. Romains chapitre 10, verset 19, juste un petit rappel. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, la jalousie des Juifs, parce qu'il n'est point une nation. Et je provoquerai votre colère à vous les Juifs par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Ceux qui ne me cherchaient pas, tous ces païens, les gens qui étaient oubliés, j'ai été trouvé. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Pendant longtemps, Jésus, le choix de Dieu, c'était sur les Juifs, mais ils ont pris ça en vain. Et le Seigneur a ouvert les portes à d'autres peuples. Donc, les mystères dont il s'agit ici, c'est de révéler aux gens que le salut est pour toute l'humanité. Toute l'humanité. L'union des Juifs et des gentils en une seule famille en Christ. Maintenant, au verset 1er, donc, il dit, nous sommes des serviteurs, et nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ, nous venons de combattre. Au verset 2, il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. À quelqu'un qui est chargé juste de communiquer une vérité, tout ce qu'on peut lui demander, c'est de ne pas enrichir cette vérité, c'est de ne pas la transformer, c'est de ne pas l'embellir, c'est d'être fidèle au message qu'on lui a donné. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas de mettre ça dans de belles phrases, mais c'est de transmettre simplement le contenu comme le Seigneur veut que nous puissions le transmettre. Tout ce qu'on peut demander de ces gens, c'est d'être trouvé fidèle, fidèle et loyal envers celui qui vous a envoyé, envers le maître de l'humanité. Le serviteur n'apporte donc rien de lui-même. Il vient comme un vase par lequel le Seigneur passe. Il lui a communiqué des choses, mais lui n'a qu'à les transmettre de manière fidèle et de manière loyale, c'est ce qu'il dit. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ne demandons pas plus aux serviteurs de Dieu. S'il vous dit ce que le Seigneur veut qu'il vous dise, ne lui en demandez pas plus. Il va ajouter des choses personnelles à lui à ce moment-là. Ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. Dieu nous jugera sur la mission qu'il nous a donnée. Et dit, vous, je vous charge d'être des dispensateurs de ces mystères que je vous ai révélés, communiquez-les à mon peuple pour que le peuple puisse marcher dans la vérité. Amen. Au verset 3, il dit, pour moi, il m'importe fort peu. Vous comprenez pourquoi il dit ça, hein? Il dit ça parce qu'il a été jugé, parce qu'il a été, on a tapé sur lui, on a dit des choses sur lui, comme s'il n'avait pas fait son devoir. Paul estime qu'il a fait son devoir. Mais on lui a demandé peut-être plus, il dit non. Moi, le rôle des dispensateurs, c'est de communiquer ce qu'on lui a demandé et d'être fidèle dans le message que le Seigneur lui a communiqué. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Il dit, mais les gens peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent dire. Les gens peuvent continuer à porter des jugements. Donc Paul est en train de faire part ici de toutes les attaques qu'il a subies de la part et des faux enseignants et de la part de tous ces responsables de différents groupes dans l'église de Corinthe. Donc il a beaucoup été attaqué personnellement, il a été jugé, il est jugé par vous. Vous c'est qui ? Vous c'est l'église de Corinthe. J'ai été jugé par vous, j'ai été jugé par les humains, par le tribunal humain, par l'opinion de tous mes détracteurs. J'ai été jugé, mais ça m'importe peu. Le jugement que l'être humain peut porter sur moi m'importe peu. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu, mon créateur, celui qui m'a mandaté, pense de moi. Et c'est lui qui viendra me juger comme on l'a chanté tout à l'heure. Donc, mais il minimise l'importance de ces attaques. Ça fait peut-être mal, mais il dit, écoutez, l'humanité est faite comme ça, les gens sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas les changer. Mais ça m'importe peu, je n'y attache pas d'importance. Ça ne va pas m'arrêter dans la mission que j'ai à faire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu se sont arrêtés à cause des attaques, à cause des attaques. Comment ça se fait que je travaille pour le Seigneur et qu'on me lance tout le temps des flèches ? C'est ça. Paul l'a vécu le premier et c'est ça. Et ce n'est pas fini. Nous sommes donc des missionnaires. Il minimise l'importance parce qu'il n'est pas préoccupé par l'estime. On aimerait tous être, hein, émettre, presque encensé. On aimerait tellement ça. C'est un peu la nature humaine. Il dit, mais je ne m'intéresse pas de l'estime que les gens peuvent porter sur moi. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois estimé par celui qui m'a envoyé. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Donc, il dit, lui-même ne se juge pas. C'est vrai. Tu ne peux pas te juger toi-même. Tu ne peux pas te juger toi-même parce que tu peux porter un jugement qui soit correct. Tu ne peux pas porter un jugement qui soit correct parce que tu ne peux pas estimer toi-même ta propre fidélité. Des fois, on se fait une petite idée de notre fidélité à Dieu. Je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ci, je fais cela. Mais comment Dieu te voit? Donc, tu ne peux pas vraiment te juger et ne pas te tromper. Donc, c'est mieux de ne pas se juger soi-même parce que tu peux te tromper. Non seulement que tu peux te tromper, tu peux même, quand tu fais l'effort de te juger, tu peux faire un jugement qui est favorable à toi-même. Et tu peux te consoler. C'est d'un côté vrai, mais de l'autre côté, il y a des gens qu'on connaît dans la vie qui sont durs vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est toujours par rapport, on se compare à d'autres. Non, je n'ai rien fait, je ne suis pas capable. Pourtant, tu as fait quelque chose que le monde et peut-être Dieu apprécie, mais non, tu ne reconnais rien, je n'ai rien fait. Donc, s'il s'agit de te juger toi-même, tu ne te donnerais aucun mérite. Il y a des gens qui sont comme ça. D'autres feraient le contraire, ils disent, toutes les fleurs sur soi, toutes les fleurs sur soi. Donc, Paul dit, je ne me juge pas moi-même parce qu'il ne m'appartient pas de porter un jugement sur ma fidélité. Je suis fidèle vis-à-vis de quelqu'un et c'est lui qui dira, oui, tu as été fidèle comme je l'attendais. Amen. Voilà pourquoi il dit. Alors, de plus, il dit qu'il ne se sent coupable de rien. Il ne va pas se mettre à se juger pour n'importe quoi. Là. Hein? Tu marches, mais est-ce que j'ai été correct? C'est pas une vie. Donc, il ne se sent coupable de rien parce qu'il se connaît. Parce que c'est quelqu'un qui se fait continuellement violence. Nous en avons parlé en début de réunion. Il se fait continuellement violence pour marcher dans des voies d'équité, dans des voies de justice, dans des voies qui plaisent à Dieu. Il a une conscience qui ne se reproche de rien. Et quand il y a quelque chose qui lui arrive, qui se reproche, il s'en repent tout de suite. Il ne peut pas vivre tout le temps sous le coup de la culpabilité partout. Est-ce que j'ai marché correct? Est-ce que... Bien aimé. Non. Il dit, je ne me juge pas parce que je ne me sens pas coupable. Ne me poussez pas à faire des choses, je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait. Donc, il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien, verset 3. Il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il dit, ce n'est pas parce que je ne me sens coupable de rien que je suis justifié. Ce n'est pas à cause de mes œuvres que je suis justifié. Nous sommes justifiés parce que quelqu'un a accepté un jour de porter nos délits sur ce bois du calvaire. C'est ça qui nous justifie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, comme on dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. Parce que lui a porté tous nos délits. Donc ce n'est même pas à nous de chercher à nous justifier. C'est lui qui nous justifie. Amen. Donc ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il laisse plutôt le jugement au Seigneur qui lui regarde aux vraies choses. Nous regardons parfois, nous, à l'extérieur. Nous nous contentons parfois des petites choses. On dit, ah, mais non, cette semaine, je n'ai pas été... Mais lui voit au cœur. Même des choses que nous faisons qui ne nuisent à personne, mais avec quelle motivation nous les faisons. Même aller à l'église, comme je disais dimanche, on y va avec quelle motivation. Dieu voit tout. Tout ce qui est caché, tout ce qui est profond, tous les vrais motifs que votre père, votre mère, votre conjoint, conjointe ne connaîtra jamais, lui les connaît. Alors, c'est lui qui peut porter le vrai jugement. Et lui ne se fie pas aux apparences. Il ne se fie pas aux apparences. Amen. Alors, c'est sûr et certain que quelqu'un qui se sent approuvé de Dieu, lui, il va être encouragé. Tu peux être approuvé des hommes, tu te trompes. Parce que tant que tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi, tu peux te tromper royalement. Et le jour où il reviendra, les autres vont s'envoler. Toi, tu vas taper des ailes, mais tu baisses. Tu essaies de voler, mais tu baisses. C'est ça l'affaire. Il faut être approuvé de Dieu. Amen. Ça, c'est plus encourageant parce que là, on est sûr qu'effectivement, quand il viendra, on s'envolera. C'est bon d'y penser, mais il faut se forcer. Il faut faire sa part. Amen. Le verset 5, qui va donc conclure le premier bloc, dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc il conclut les cinq premiers versets en disant, ne jugez de rien, ne jugez pas, ne vous mettez pas à juger des serviteurs avant le temps. Le serviteur aura des comptes à rendre, comme toi-même tu auras des comptes à rendre à ton maître. Ne jugeons rien hâtivement. Alors que les groupes factieux, les groupes divisés dans l'église de Corinthe et les différents partisans des faux enseignants arrêtent le message qui leur passe. Arrêtent de faire leurs évaluations hâtives. Ils sont pressés de juger, ils sont pressés. Attendez, il y a quelqu'un qui viendra être juste, qui fera un jugement juste. Tandis que vous, tout ce que vous pouvez faire, ça peut être des jugements erronés. Dieu seul mettra tout en lumière le jour où il fera son jugement. Et seul, il pourra récompenser ceux qui ont été fidèles, ceux qui auront été loyaux vis-à-vis de lui. Il va les récompenser et il jugera et il punira tous ceux qui auront été infidèles. Amen. Nous lisons un autre bloc de versets de 6 à 13. Il dit, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Il est vraiment en plein dans cette division qu'il y a dans l'Église. « Que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, dit-il, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous jusqu'à maintenant. Je vais m'arrêter là. Vous comprenez que dans cette partie, Paul développe maintenant quelle est la condition des apôtres, des vrais apôtres. Là, il a parlé de tout ce qui crée des divisions, etc., qui veulent juger les autres activement. Mais il dit, voici quelle est la condition actuelle, la condition des apôtres, et qui est en contraste, évidemment, flagrant par rapport à celle de tous ces Corinthiens dont il vient de parler, en particulier les leaders, qui, eux, cherchent à être considérés, à être influents. Et on vient de voir qu'il y a vraiment un contraste, et nous allons le voir en détail. D'abord, il commence en disant, au verset 7, 6, il dit, « C'est à cause de vous. » Il dit, « Mais frère, c'est à cause de vous, c'est pour votre bien que nous commençons à appliquer, que nous faisons une application à notre personne, à moi, Paul, et à Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre, ou contre l'autre. » Donc, c'est pour votre bien que j'applique tout ce que je viens de dire. Le fait qu'il ne faut pas être orgueilleux, le fait qu'il faut être humble, le fait qu'il ne faut pas juger, je l'applique à nous, même si on ne le fait pas, parce que je ne voudrais pas l'appliquer à quelqu'un d'autre. Je l'applique à nous, à cause de vous, à cause de votre bien. Je ne veux pas l'appliquer à d'autres personnes. Je veux que vous appreniez par nous comment traiter les serviteurs fidèles de Dieu. En partant de notre propre condition, vous allez vous rendre compte par la suite ce qu'eux vivent. Les différents apôtres, ils vivent des choses difficiles. Il dit, je le fais, je l'applique à nous pour que vous cessiez de vous diviser. Je l'applique à nous pour que vous cessiez de vous diviser. Il l'a fait dès le départ. Qui est d'Apollos? Qui est de Paul? Il montre qu'il n'y a pas qui soit d'Apollos. Il n'y a pas. Je l'applique à nous pour que vous cessiez de vous diviser, de prendre parti en faveur de l'un ou de l'autre serviteur. Je l'applique à nous pour aussi que personne ne soit orgueilleux. Que personne ne puisse être imbu de lui-même, qu'aucun des serviteurs ne commence à s'élever. Je l'applique à nous pour vous montrer que nous ne le faisons pas. Il aurait pu s'attaquer à tous ceux qui le font dans l'église de Corinthe. Il dit non, je ne veux pas l'appliquer à d'autres personnes. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je viens de condamner, tout ce que je viens de mentionner auparavant, je vais l'appliquer sur nous pour que vous voyez que nous, on ne le fait pas. C'est pour votre bien. C'est à cause de vous que je le fais ainsi. Que vous ne puissiez pas être orgueilleux, vous ne soyez pas imbu de lui-même au détriment de l'autre, au point de le dénigrer. Ici, quand je préparais ça, ici, cet après-midi, j'ai pensé à quelque chose. Je parlais avec un serviteur de Dieu. Non, je n'ai pas parlé, j'ai entendu ça. D'un serviteur de Dieu qui parle avec une brebis, un membre d'une église, et il parle de tout et de rien, il parle peut-être des choses spirituelles. Et puis il demande, mais toi, tu vas dans quelle église? Il dit, moi, je vais dans l'église de tel pasteur, avec tel pasteur. Il dit, mais tout le monde a quitté là-bas. Qu'est-ce que toi, tu fais encore là? Il dit, tu perds ton temps là-bas. Ceux qui ont quitté là-bas, ils sont venus chez nous. Donc c'est ici qu'il y a la vérité. C'est ici que tu peux t'enrichir. C'est ici. Mais dénigrer l'autre pasteur. L'autre pasteur, tant qu'il n'a pas prêché des choses contraires à la parole de Dieu, il peut ne pas avoir la parole facile. Il peut ne pas avoir la facilité de langage que toi tu as. Ce n'est pas une raison de le dénigrer. Ce n'est pas une raison d'aller piger ou pêcher dans l'aquarium, comme on dit. Tu devrais aller prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile, mais pas aller puiser dans l'église à côté en disant, viens chez nous, qu'est-ce que toi tu fais encore là? C'est des choses comme ça que Paul est en train de condamner. Il y en a qui sont imbus d'eux-mêmes, qui disent, non, mais vous voulez avoir le vrai évangile, c'est ici. Là-bas, vous perdez votre temps. Ce n'est pas vrai, c'est le même évangile que l'on prêche. Même évangile que l'on prêche. Amen. Verset 7, il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, si Paul veut que l'orgueil de toutes ces personnes puisse diminuer, pour réduire leur niveau d'orgueil, il leur fermait la bouche carrément, qu'ils arrêtent de s'élever, il dit, il pose cette question. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Même les dons dont tu te vantes, tu les as reçus de Dieu. Tu les as reçus de Dieu? Ce n'est pas venu de ton propre, de ta propre décision. Tous les dons que nous avons nous viennent de Dieu. La sagesse que nous pouvons avoir nous vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu pour t'en vanter? Tu n'as rien reçu. Donc, c'est des questions qu'il leur pose pour qu'ils puissent arrêter et s'apercevoir que c'est une fausse route dans laquelle ils se sont engagés de diviser et de commencer à s'élever au détriment des autres dans la même église. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Qu'est-ce qui te distingue? Il y a bien des choses qui peuvent nous distinguer, humainement parlant. Il y en a qui peuvent avoir eu le succès financier dans sa vie. Ça peut te distinguer de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est un élément suffisant pour aller au ciel? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. La prospérité, le succès matériel, etc. Tu n'es qu'un serviteur comme tous les autres. Il y a des choses qui te distinguent, mais rends grâce à Dieu qui te les a données. Mais ne te sers pas de ça, je l'ai dit un peu dimanche, je ne veux pas y revenir. Donc, ce n'est pas en plus un signe qui indique que tu as une conduite qui est plus juste devant Dieu. Ce qui te distingue peut être bon pour toi, mais ce n'est pas nécessairement un signe qui te distingue pour dire que tu as une meilleure conduite vis-à-vis de Dieu que ton frère, que ta sœur. Donc arrêtez l'orgueil, vous n'avez rien. Et il pousse beaucoup à l'humilité qui est donc la seule attitude acceptable pour les serviteurs de Dieu. Il a commencé par dire, vous n'êtes rien que des serviteurs, soyez donc humbles. Qu'est-ce qui te distingue sur lequel tu veux t'élever au-dessus des autres? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Et puis il termine en disant, mais pourquoi alors te glorifies-tu? Comme si c'est quelque chose que tu as fait toi-même, comme si ce n'était pas quelque chose que tu as reçu de Dieu. Donc un encouragement au verset 7, vraiment à l'humilité. Baissez votre niveau d'orgueil parce que vous n'êtes rien. Tout ce que vous êtes, c'est ce que Dieu a permis que vous soyez. Humiliez-vous simplement. Le verset 8. Il dit déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Ici, ça va être une série de versets dans lesquels Paul débute une série de fausses louanges. On va dire. C'est comme une fausse louange qu'il leur fait. En fait, il est en train d'ironiser sur eux. C'est comme du sarcasme même. Vous allez voir, par moments, c'est dur, là, comme il utilise, là. Il fait comme s'il les encense, comme s'il les louange. Il dit, déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous vous considérez comme bien. Vous vous considérez comme des gens qui sont arrivés. Vous avez déjà eu tout. Vous êtes enrichis. Vous êtes bien. Vous vous considérez comme rassasiés. Vous êtes riches. Et sans nous, vous avez commencé à régner. Sans nous qui? Sans nous, les apôtres. Sans nous qui avons été, et il le dit plus tard, qui avons été à la base de votre salut. C'est nous qui vous avons apporté l'évangile. Vous ne pouvez pas vous distancer, vous séparer et oublier les personnes qui vous ont conduit à l'évangile. Sans nous, vous considérez que vous êtes rassasiés. Vous n'avez plus besoin de nous. Vous avez assez. Sans nous, vous êtes déjà riches et vous commencez à régner. Donc, vous dites, nous suffisons par nous-mêmes. Vous nous avez donné les éléments de base. Nous avons développé ça et aujourd'hui, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. C'est ironique, il va voir qu'ils ont besoin de lui. Donc il amorce ici une fausse louange, une ironie quelque chose de choquant envers les Corinthiens. Ils s'imaginent rassasiés, enrichis à cause de toutes les louanges là qu'ils recevaient là. Donc on élevait tellement les gens que ils se disent oh, hein, je suis bien. Vous êtes rassasiés à cause des louanges que l'on vous fait. C'est tout simplement de l'orgueil spirituel. C'est de l'orgueil spirituel. Vous vous croyez parvenu à la perfection, alors que vos agissements sous-entendu. Quand on dit c'est un sarcasme, il se moque un peu de. Parce que quand on regarde à vos agissements, vous êtes vraiment comme des bébés spirituels. Nous l'avons vu à l'étude d'un Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er, il dit, il leur disait, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous vous élevez, vous dites que vous êtes arrivé, mais en réalité, vous n'êtes nulle part. Sur le plan spirituel, vous êtes tout simplement comme des enfants en Christ. Arrêtez votre orgueil spirituel, et puis parce que vos agissements révèlent votre niveau de maturité spirituelle, si vous êtes vraiment comme des enfants. Alors, ils ont commencé à régner sans les apôtres, c'est vraiment pour montrer leur autosuffisance. Et il n'y a pas, dans l'histoire de la Bible, tous les grands hommes se souviennent toujours et ont toujours obéi à ceux qui les ont conduits vers le Seigneur, ceux qui les ont amenés vers le Seigneur. Je pensais à l'histoire de David avec Nathan. David, l'histoire d'Uri, après avoir tué Uri, après avoir commis la débauche avec sa femme, Bathsheba, Nathan est venu lui dire, il lui a raconté une histoire, etc., sous forme de proverbe, de parabole presque, et puis il lui a dit, mais comment tu réagirais devant cette personne? Il lui a dit, mais écoute, cette personne mérite. Il dit, c'est toi ça. Il aurait pu dire, fous-moi la paix. Je n'ai rien à voir avec ça. Il a dit, tu te fais attention, je vais te mettre en prison, je suis roi, etc. Non, il s'est soumis, il s'est repenti. Parce qu'il était redevable. Il savait que Nathan était un prophète de Dieu. Il ne pouvait pas régner sans les prophètes de Dieu. À cette époque-là, d'abord, ils avaient beaucoup, beaucoup d'importance. Beaucoup d'autres personnes dans la Bible sont toujours redevables. La redevabilité est importante dans la vie chrétienne. Et il va y revenir plus tard. Donc, les gens qui nous ont conduits vers les voies du Seigneur, nous leur devons beaucoup. Nous devons les aimer, tout comme les gens qui nous enseignent, tout comme les gens qui nous encadrent, tout comme les gens qui prient pour nous là où nous ne le savons pas. Nous devons les aimer, nous devons les défendre, nous devons prier pour eux. Nous devons les approcher, nous approcher d'eux. Nous devons les bénir devant Dieu. Nous devons les bénir. C'est un devoir de reconnaissance que nous avons vis-à-vis de toutes ces personnes. Et Paul continue avec son ironie justement en disant « Plaise au ciel ». C'est ce qu'il dit au verset 8. Il dit « Mais et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous ». C'est une façon de dire « Plaise au ciel que vous régniez, plaise au ciel qu'en régnant comme vous régnez présentement, que nous aussi nous puissions régner, comme si nous aussi nous devions avoir droit ou part au gâteau dans lequel vous êtes en train de piger. Là. Donc, plaise au ciel, c'est bon que vous régniez, mais pourvu que nous aussi, nous puissions régner avec vous. Parce que n'oubliez pas que nous avons été les dispensateurs, nous avons été les pionniers qui vous avons conduit au salut. Donc, plaise au ciel que vous régniez, afin que nous aussi, nous régnions. Nous aussi, régner, ça veut dire que nous aussi, nous quittions les moments difficiles que nous vivons. Et aussi, nous puissions arrêter les combats dans lesquels nous sommes. Que nous aussi, nous puissions quitter les souffrances dans lesquelles nous sommes. Si vous régnez, bien, ça devrait nous amener, nous aussi, à quitter ces situations difficiles. Ça devrait nous amener, nous aussi, à voir le triomphe sur tous les ennemis qui luttent contre l'Église. Donc, vous ne pouvez pas régner et les autres continuer à souffrir. Vous ne pouvez pas régner et les autres continuer à mordre la poussière, je ne sais pas comment je vais dire. Vous ne pouvez pas régner et continuer à voir des luttes dans l'Église. Si vous régnez, il faut que tous nous puissions ensemble régner et que nous puissions avoir aussi le triomphe sur tous les ennemis de l'Église. C'est vraiment de l'ironie pure et simple que Paul est en train de le dire. En fait, c'est pour attirer l'attention, c'est pour un peu les piquer au vif. Et Paul savait que pour être utilisé par Dieu, il faut payer le prix du renoncement à soi. Ce n'est pas qu'il veut dire, bon, si vous régnez, non, c'est assez. Ce que nous avons souffert pour l'Évangile, c'est assez, nous voulons arrêter là. Lui, il savait. Il savait que appeler à prêcher l'Évangile, c'est appeler à renoncer à soi. C'est appelé à être exposé à des coups, à des blessures, à des injures, à des jugements, à des accusations fausses. Il le savait, c'est l'appel qui va avec ce ministère. Et tous les pionniers de l'évangélisation ont payé ce prix. Regardez dans l'histoire, vous allez le voir. Christ lui-même, le premier. Christ lui-même, pour nous racheter de nos vaines manières de vivre, pour nous libérer des chaînes de l'ennemi, a dû payer le prix de la croix. La chose la plus horrible de l'époque, il a dû payer par ça. Donc Paul le savait, mais il est en train d'ironiser sur les Corinthiens. Le verset 9 à 13, là il commence à être plus concret. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde aux anges et aux hommes. Paul confirme donc, commence à confirmer ses propos et ses souffrances par des exemples. Des exemples en citant les difficultés justement auxquelles les apôtres font face. C'est toute la litanie qui vient après, et parce qu'il veut vraiment aller toucher la conscience des Corinthiens. Et vraiment toucher leur conscience. Et il dit, Dieu a fait de nous, Dieu a fait de nous. Déjà là, il le dit pour montrer qu'il ne veut pas donner une visibilité, il ne veut pas donner crédit à tous ces méchants qui les font souffrir. Il met ça sur le compte de Dieu. Il dit, car Dieu, il me semble, a fait de nous. Donc toutes les souffrances, toutes les difficultés, tous les coups que nous recevons, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a fait de nous. Il considère donc que tout ce qui leur arrive relève de la volonté de Dieu. Et lui ne s'attarde nullement à tous ceux qui sont à la base, tous ces méchants qui sont à la base de toutes les difficultés. Il ne s'intéresse pas. S'intéresser à ces méchants, c'est leur donner un crédit, c'est leur donner une certaine visibilité. Il dit non, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui a permis que ça arrive comme ça. Tout ce qui arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Ça doit nous interpeller, nous tous aussi. Quand nous vivons des choses difficiles, même dans l'Église, ces jours-ci, j'ai le goût beaucoup d'en parler. Quand on est dans l'Église, ce n'est pas la place où on est exempté de coups. On va les avoir dans l'Église. Il faut savoir que si Dieu permet que ces choses arrivent, c'est pour un but. Il veut nous élever à un autre niveau de compréhension. Il veut nous élever à un niveau de patience. Il veut nous élever à un niveau de, je ne sais pas, de patience, quelque chose comme ça. Mais c'est Dieu qui le permet. Ici aussi, Dieu a fait d'eux. Il considère que c'est Dieu qui a fait d'eux les rébus. Il considère que tout ce qui arrive, donc, c'est par la volonté de Dieu. Quand il parle, il a fait de nous les derniers des hommes ou des condamnés à mort. C'est un langage qui est facilement compréhensible pour les gens de l'époque. Les derniers des hommes ou les condamnés à mort, c'est faisait allusion à l'époque des Romains, quand les gens revenaient de la guerre, des grands combats, les généraux revenaient sur des chars avec le butin et tout, et ils revenaient aussi souvent avec des prisonniers de guerre. Alors, les prisonniers de guerre, eux, ils venaient en dernier, au bout du cortège. Au bout du cortège. Mais ces prisonniers étaient destinés pas à aller en prison. C'était des prisonniers qui étaient destinés à être condamnés à mort. Ça veut dire on ne les fusillait pas, mais on les mettait pour le plaisir des gens dans les grandes arènes qu'il y avait à l'époque. On les amenait comme dans un stade, là. Alors, on les mettait au milieu là-bas, en plein milieu des animaux sauvages et féroces, là, ben, défendez-vous et puis qui vous bouffent tout simplement. Donc c'est vraiment l'image qu'il veut donner ici. Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes. Donc nous venons en bout du cortège, là, de ce cortège-là des vainqueurs, nous venons en bout de piste, là. Et ceux qui viennent en bout, ce sont des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde. Alors, c'est des gens qui sont mis en spectacle, devant les animaux, etc. Tout le monde regarde, là, comment tu es en train d'être dépecé par le lion ou par je ne sais pas quel genre d'animaux. Ils mettaient dans l'arène et puis ils vous mettaient là-dedans. C'était le plaisir des gens. Alors, ils considèrent que ce que Dieu a permis à ses apôtres, c'est quelque chose de ce genre-là. Ça n'a pas été une vie facile pour que l'Évangile nous atteigne. Vous savez comment la plupart de ces apôtres ont fini leur jour, torturés, pendus au bois. Ils ont vécu des choses difficiles dans leur ministère. Donc, nous étions les derniers des hommes des condamnés à mort. Il fait allusion donc à tous ces prisonniers de guerre qui venaient en fin de cortège. Et puis, si nous allons au verset 9 et suivant, donc, il continue alors toute la série des contrastes. Il dit, nous, nous sommes fous à cause de Christ, nous sommes fous à cause de Christ, vous vous considérez comme étant sage en Christ. Fous, sages. Oui, nous sommes fous, effectivement, parce que à cause de l'Évangile, nous qui croyons à l'Évangile, nous sommes fous, etc. Et eux se considéraient comme des sages en Christ. Il dit, nous nous considérons comme faibles, vous considérez comme forts. Vous nous considérez comme méprisés, vous considérez comme honorés. C'est tout ce qu'il est en train de citer là-dedans. Il dit, nous avons vécu la faim, la soif, la nudité, la maltraitance, nous avons été errants. Ici, il fait allusion à, vous savez, les enseignements de Jésus dans le sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, vous retrouvez ça là-dedans, à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est cela qu'il est en train de dire. Nous sommes persécutés, la faim, la soif, la nudité, maltraités. Tout ça, c'est pour la justice. Heureux sont-ils, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Paul reprend quasiment les paroles de Jésus-Christ ici. Il est en train de dire ça aux Corinthiens en faisant allusion aux enseignements de Jésus-Christ. Il dit, nous sommes fatigués, dit-il, errant ici et là. Au verset 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Il n'y a rien qu'il dit au hasard. Hein. Travailler de ses propres mains, vous vous rappelez, c'était une époque où les Grecs, etc., régnaient dans cette église. Et pour eux, le travail manuel, c'était pas pour les gens d'une certaine classe. Parce qu'eux, ils se considéraient comme des gens instruits, des gens d'une classe supérieure. Donc le travail manuel, c'est pour les derniers, les prisonniers, les serviteurs, les esclaves. Il dit, c'est ce que nous avons vécu. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous avons été injuriés, mais ce que nous faisons, nous, nous bénissons. Nous avons été persécutés, mais nous nous supportons. Nous avons été calomniés, mais nous parlons avec bonté. Et nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous jusqu'à maintenant. Voici ce que les gens sont devenus. Le rébut de tous, comme les rejetés, comme des gens qui ont la peste, comme les gens qui sont à la base des problèmes dans une société. Et à l'époque, quand il y avait des problèmes dans une société, les gens qui avaient des problèmes, on les sortait, on les jetait. Rappelez-vous, dans le cas de Jonas, ils sont sur le bateau, ils jettent le sort et puis ils trouvent celui qui est à la cause. Ben, la solution, c'est le rébut. Jeter, il n'a pas de place au milieu de nous. Et ce même sentiment a continué. Ce même sentiment s'est poursuivi longtemps après ce temps de temps de Corinthiens ici. Ça s'est poursuivi longtemps, longtemps après, parce que chaque fois qu'il y avait un problème qui arrivait dans l'Empire romain, on imputait la faute sur les chrétiens, les disciples de Christ. Et il y avait une expression, il dit, les chrétiens obèdent. C'est une expression qui était. Donc, chaque fois qu'il y avait un problème au niveau de l'Empire, on dit, il y a un problème, etc. On ne cherchait pas la cause, mais c'était dit, c'est la faute des disciples de Jésus-Christ. Et l'expression, le mot d'ordre, c'était, les chrétiens obèdent. Dans l'arène, on les jetait au milieu de la reine pour être bouffée par tous ces animaux, parce qu'on leur attribuait tous les malheurs de l'Empire. Ils considèrent aussi comme cela, comme les rebuts de la société, les balayures du monde. Voici l'image qu'ils donnent de ce que sont les apôtres aux yeux des gens. Voici l'image que Paul donne de ce que sont les apôtres. Donc Paul veut, dans cette comparaison, il veut montrer combien les apôtres payaient de leur personne, souffraient à cause de Christ, et comme Christ lui-même a souffert, ils ont souffert de privation, ils ont souffert de diffamation, de toutes sortes de calomnies, et alors que les Corinthiens, pendant ce temps, vivaient comme des rois, ils avaient une vie facile et d'insouciance. Mais en disant cela, évidemment, Paul, c'est pour dire que je n'approuve pas la façon de vivre des Corinthiens. Je n'approuve pas la façon de vivre des Corinthiens, et il les réprimande sur un ton un peu moqueur, ironique, mais il le fait par amour. Voilà pourquoi, au verset 14, il dit, après avoir dit toutes ces choses, il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Je sais que c'est dur ce que je viens de dire. Je sais que c'est dur, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est parce que je vais vous inciter à la charité. Je vais toucher la sensibilité, les cordes sensibles de votre cœur pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu attend de vous. Le but que Paul poursuivit, c'est de ne pas, dit-il, verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Comme un père peut avertir ses enfants. Comme un père peut se préoccuper de l'éducation de ses enfants en leur montrant tout le mauvais côté du comportement qu'ils peuvent avoir. Et au verset 15, il dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ, en Jésus-Christ, par l'Évangile. Vous pouvez avoir eu plusieurs maîtres, maîtres dans le sens, pas des gens qui ont nécessairement dominé sur vous, mais des gens qui étaient chargés de vous enseigner. Vous en avez. Il y a des faux enseignants, il y a toutes sortes. Vous pouvez en avoir beaucoup qui vous ont enseigné, mais vous ne pouvez pas oublier celui qui vous a amené, celui qui vous a engendré en Jésus-Christ. L'importance, il met un accent encore ici, que celui qui a engendré est plus grand que celui qui enseigne. Même si des fois il peut avoir des faiblesses, mais c'est cela qu'il faut considérer. Donc on peut avoir plusieurs maîtres, vous pouvez avoir eu plusieurs instructeurs, mais n'oubliez jamais que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Alors il les incite automatiquement, il le dit au verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Faites comme je fais, faites comme je vous ai enseigné. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé de vous éloigner de ce que j'ai fait pour suivre tous ces faux enseignements? Il les invite donc à être ses imitateurs. Alors pour cela, au verset 17, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il dit, c'est pour continuer ce que je suis en train de vous écrire ici, que je vous ai envoyé Timothée. Et il le présente avec beaucoup de mots gentils, beaucoup de mots qu'il élève, pas qu'il élève, mais qui va lui donner quand même une certaine ouverture, qu'il puisse être accepté, des mots aimables qu'il utilise pour qu'on accepte Timothée. N'oubliez pas qu'il était jeune, on pouvait le minimiser à cause de sa jeunesse, mais il dit, je vous l'envoie, il est mon enfant bien-aimé. Non seulement mon enfant, mais bien-aimé et en plus fidèle. C'est encore une petite pointe qu'il vient de faire parce que lui, il est resté fidèle aux enseignements. Les mêmes enseignements que vous avez eus, lui, il est resté fidèle. Voilà pourquoi je vous l'envoie. Il me précède. Je vous l'envoie pour qu'il vous rappelle. Pas qu'il vous enseigne, qu'il vous rappelle. C'est des choses que vous connaissez, dont vous vous êtes détourné. Je vous l'envoie pour qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en Christ, celles dans lesquelles je veux que vous puissiez m'imiter. Il va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, c'est la vérité qui va vous amener. Il va juste vous rappeler la vérité. La vérité qui ne change pas selon les saisons, la vérité qui ne change pas selon les circonstances, la vérité qui est la même dans un an, dans deux ans, dans dix ans, la vérité ne changera pas. Que vous soyez à Corinthe, que vous soyez à Éphèse, que vous soyez partout ailleurs, dans toutes les églises que je vais, j'enseigne la même vérité, c'est celle-là que je veux que vous puissiez appliquer. C'est celle-là que je veux que vous puissiez appliquer. Et donc, elle est la même partout dans toutes les églises. Il n'y a donc pas de raison sous-entendue que vous puissiez vous considérer comme étant une église à part, que vous sortiez des voies dans lesquelles on vous a enseigné. Vous n'êtes pas plus avant-gardiste que les autres. Non, la vérité est la même pour tous. Mettez-la en pratique. Alors, il dit au verset 18, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous et si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, pour terminer, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Il envoie Timothée en sachant qu'il y a des gens qui ont déjà fait un travail négatif au sein de l'Église. Ils se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Ici, il revient sur son autorité apostolique. Ils se sont enflés d'orgueil, profitant du fait que j'étais absent. Ils se sont enflés d'orgueil, faisant passer des messages, comme quoi, peut-être je ne viendrai plus, je ne viendrai même pas exercer mon autorité apostolique, mais il confirme, il dit, je viendrai. Mais j'irai bientôt chez vous, dit-il. Bientôt j'irai chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Lui marchait toujours selon que l'Esprit le dirigeait, selon que l'Esprit le conduisait. J'irai chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Mais mon désir à moi, c'est que je vienne chez vous. Alors, il est donc poussé par ce sentiment de paternité. Il leur envoie Timothée pour qu'il puisse leur rappeler la vérité. Et en fait, Timothée ne faisait que le précéder. Il ne faisait que précéder Paul. Et il leur passe le message à travers cette lettre, ce chapitre de lettres ici. Il dit que, il y a des gens qui ont profité de mon absence, mais sachez que j'arrive. J'arrive bientôt. Et lui, c'était un homme autoritaire, là. Il faisait comprendre les choses comme cela se devait. Donc, j'arrive et je viendrai si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai. C'est là que je vais voir le vrai travail de tous ces détracteurs. C'est bien qu'ils disent qu'ils veulent prendre la place, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Ce que je vais juger, ce n'est pas quoi. Ce sur quoi je vais me baser, pas juger. Ce sur quoi je vais me baser, ce n'est pas les paroles qu'ils prononcent. Ce n'est pas les paroles mielleuses, douces qu'ils prononcent. Ce n'est pas l'éloquence de leurs paroles qui m'intéresse. Mais je vais voir la puissance de ceux qui se sont enflés. Quel a été l'impact de toutes leurs paroles? Quel a été l'impact de leur ministère? Est-ce qu'ils ont mené des vies à être transformées? Est-ce qu'ils ont amené des cœurs à s'humilier? Est-ce qu'ils ont amené des cœurs à se repentir? C'est ça que je vais regarder. C'est bien beau, ils vous ont parlé, ils vous ont épaté avec des beaux discours, mais les fruits, nous allons voir les fruits. Et j'arrive. Et il insiste qu'il arrive. Et donc, je vais me baser sur les fruits et je vais voir c'est quoi l'impact de leur ministère sur la vie de tous les gens. Donc, Paul, il dit, je viendrai si c'est la volonté du Seigneur, parce que lui était toujours soumis à la voix de l'Esprit. Souvenez-vous, dans Actes 16, il devait aller dans une direction. Le Saint-Esprit dit, nous a empêchés d'aller. Dans Actes 16, il en parle. On va terminer là-dessus. Donc, et Paul termine au verset 21 en confirmant qu'il ne va pas traiter le péché à la légère. Pourquoi? Parce qu'il dit, que voulez-vous? Comment voulez-vous que je me comporte quand je vais arriver chez vous? Voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Ça, ça dépend de vous. Selon l'attitude, selon la réaction, selon le comportement que vous allez avoir, ça me passera le message que je dois venir avec une verge pour venir corriger, pour rectifier, pour traiter durement le péché. Je ne vais pas traiter le péché à la légère. Je viendrai avec une verge s'il le faut. Je vais utiliser mon autorité apostolique pour sanctionner, pour même mettre dehors tous ceux qui sont les fauteurs de troubles au sein de l'Église. Il use de son autorité. D'où sa question, dans quel esprit voulez-vous que je vienne? C'est vous qui allez me donner les outils avec lesquels je vais travailler. Voulez-vous que je vienne avec une verge? Ben, je viendrai avec une verge. Ce n'est pas mon premier choix dans le fond. Ce n'est pas mon premier choix. Si vous changez, si vous revenez aux vraies choses que je vous ai enseignées, si vous revenez à ce que Timothée qui me précède va vous rappeler, je n'aurai pas besoin d'amener la verge. Mais si vous demeurez dans votre position, si vous ne changez pas, c'est impossible que je vienne, je viendrai avec la verge. Et si vous changez, alors je viendrai avec amour, avec douceur, pour ceux qui reconnaissent donc leur mauvaise conduite et qui reviennent à l'obéissance et sur le droit chemin. Voici donc la fin de ce chapitre 4, donc, où il montre ce que doivent être les serviteurs de Dieu, comment on doit se comporter vis-à-vis d'eux. Et puis il montre aussi les souffrances qu'ils peuvent vivre et il montre aussi l'importance d'être fidèle aux voies du Seigneur. Alors, c'est la fin du premier bloc, de la première épître aux Corinthiens, le premier bloc où il adressait les problèmes des divisions et les causes et les conséquences de ces divisions. Là, c'est quasiment fini. Maintenant, il va s'attaquer aux autres problèmes. Dans les deux chapitres qui suivent, 5 et 6, il va s'attaquer aux questions d'immoralité qui leur ont été rapportées au sein de l'Église, de tous les désordres qui régnaient au sein de l'Église et qui étaient présents. Donc, ça va être l'objet de nos prochaines études. Le Seigneur vous bénisse. Amen.